Chapitre 23. Les paroles sévères que Jésus adresse aux chefs du peuple sont rapportées dans ce chapitre. Quelques jours plus tard, sous l'influence de ces hommes, les foules réclameront sa mort. Leur responsabilité et leur culpabilité sont d'autant plus grandes que le Seigneur les a avertis du vrai caractère de leur conducteur. Il commence par leur reconnaître la place qu'ils réclamaient comme interprètes de la loi de Moïse. Le peuple devait par conséquent garder la loi et l'accomplir selon qu'il l'entendait de leur bouche, mais veiller soigneusement à ne pas les imiter. Leur vie contredisait la loi qu'ils proclamaient. Ils légiféraient pour les autres, sans s'inquiéter le moins du monde d'obéir eux-mêmes. Le Seigneur le souligne au verset 4. C'est une faute très répandue chez les religieux de profession, qui aiment diriger les autres tout en préservant leur propre liberté. Puis, dans les versets 5 à 12, Jésus dénonce leur désir d'être vu et d'avoir la première place. Tout était fait en fonction des hommes. Dans les repas, le cercle social, dans les synagogues, le cercle religieux, et dans les places publiques, le cercle des affaires, ils réclamaient la place la plus élevée en tant que rabbi et maître. Le disciple de Christ est appelé à être exactement l'opposé de tout cela. Aussi, prenons-le à cœur. L'abaissement de ces hommes n'est qu'une question de temps. Ils étaient censés être des guides pour introduire les âmes dans le royaume, mais en fait ils étaient des obstacles pour elles. Ils n'entraient pas eux-mêmes et empêchaient les autres d'entrer. En outre, ils profitaient de leur position pour dépouiller les veuves sans défense et couvraient cette énormité par l'étalage de longues prières. Aussi recevraient-ils un jugement plus sévère. Les longues prières impressionnent peut-être la foule, mais pas le Seigneur. Souvenons-nous-en et évitons-les. Celui qui a une ardente requête sur le cœur et qui est vraiment conscient de la présence de Dieu ne déversera pas un flot de paroles. Que tes paroles soient peu nombreuses, lisons-nous en Ecclésiaste 5, verset 2. Le grand zèle déployé pour faire des adeptes est caractéristique de l'esprit pharisaïque, et les paroles du Seigneur au verset 15 brossent un tableau remarquable du simple prosélytisme. Celui-ci reproduit, en les accentuant, les traits des agents recruteurs dans ceux qui sont gagnés. Les pharisiens étaient des fils de la géhenne, et leurs adhérents l'étaient deux fois plus qu'eux. Cela explique pourquoi les hommes méchants et les séducteurs progressent toujours plus dans le mal, jusqu'à ce que tout soit mûr pour le jugement. Dans les versets 16 à 22, le Seigneur condamne leurs enseignements imaginaires. Les distinctions qu'ils établissaient entre le temple et l'or du temple, entre l'autel et le don qui est dessus, pouvaient les faire passer aux yeux des simples pour des esprits très supérieurs. En fait, ces subtilités étaient purement fantaisistes et ne faisaient que prouver l'aveuglement et la folie de ceux qui les soutenaient. Dans les autres domaines aussi, une exactitude scrupuleuse dans les petites choses, beaucoup de négligence dans celles qui sont importantes, que ce soit positivement quant à ce qu'ils observaient, verset 23, ou négativement quant à ce qu'ils ne faisaient pas, verset 24. Ils étaient, certes, aveugles, et ce genre de cécité spirituelle n'est que trop répandu aujourd'hui. Les versets 25 à 28 dénoncent un autre caractère pernicieux. Ils se souciaient uniquement de la pureté extérieure, de manière à se donner une bonne apparence aux yeux des hommes. L'intérieur, qui est découvert au regard de Dieu, ne les inquiétait pas du tout. Ils portaient la plus grande attention à la souillure qu'ils pourraient contracter par contact extérieur, mais étaient absolument indifférents à celle qu'ils produisaient eux-mêmes et qui venait du dedans. Ils devenaient par là des sources de souillure, et bien loin d'être contaminés par les autres, ils la leur communiquaient. C'est un mal très subtil, et nous pouvons bien demander à Dieu de nous en préserver à quelque degré que ce soit. Enfin, dans les versets 29 à 33, le Seigneur les accuse d'être les meurtriers des prophètes de Dieu. Ils bâtissaient les sépulcres des prophètes d'autrefois, puisque l'aiguillon de leurs paroles n'était plus senti, mais ils étaient véritablement les fils de ceux qui les avaient tués, et, selon le principe du verset 15, ils se montreraient criminels deux fois plus qu'eux, comblant les péchés de leur père et ayant leur fin, sans aucun doute, Dans le jugement de la géhenne. Nous trouvons dans ce passage, prononcé par Jésus, l'accusation la plus sévère de toutes celles qui nous sont rapportées. Jamais il n'a dit de telles choses à aucun pauvre publicain ou pécheur. Ces paroles vives étaient destinées aux hypocrites religieux. Lui était plein de grâce et de vérité. Aux pécheurs qui se reconnaissaient tels, il offrait la grâce avec la vérité. Le projecteur de la vérité, sans mention de la grâce, était réservé aux hypocrites. C'est ainsi que le sang d'une longue lignée de martyrs allait être imputé à cette génération. Et maintenant, pour la dernière fois, l'occasion était offerte à Jérusalem de se réfugier sous les ailes de l'Éternel, présent au milieu d'eux dans la personne de Jésus. Souvent, il aurait voulu les abriter de cette manière, les psaumes en témoignent. Et souvent, Jésus aurait voulu les rassembler pendant son passage parmi eux. Mais ils ne l'ont pas voulu. Aussi la splendide maison, à Jérusalem, reconnue autrefois comme celle de l'Éternel, était-elle maintenant désavouée. Elle n'était plus que leur maison, et elle était déserte. Celui qui aurait voulu l'occuper allait les quitter et ne serait plus vu jusqu'à ce qu'ils disent « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Le psaume 118 montre qu'ils ne prononceront pas ces paroles avant que vienne ce jour que l'Éternel a fait, lorsque la pierre que ceux qui bâtissaient avaient rejetée sera devenue la tête de l'angle.